Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. Elle a traversé l'Atlantique en solitaire, à la rame, à l'aviron, ou encore sur une embarcation de 6 mètres, tractée par un kite, mais aussi réalisé de nombreuses navigations dans le mythique passage du Nord-Ouest. La navigatrice Anne Kéméré est notre invitée dans ce magazine pour nous parler de ses expéditions dans le Grand Nord canadien.
Soit on déteste, et vraiment c'est quelque chose de presque viscéral, soit on tombe en amour. Mais vraiment, c'est un espèce de coup de foudre. Je pense que ça fait appel à beaucoup d'émotions. On se retrouve, on a l'impression d'être aussi un peu peut-être à la naissance du monde, là où tout est possible encore.
Reportage sur le tournage d'une émission de télé-réalité consacrée à la pêche, Fish or Quit, pêche ou part, qui se veut être un Koh-Lanta de la pêche.
Un téléspectateur, il pourra avoir à la fois des épreuves de pêche et beaucoup d'informations sur le poisson et son écosystème. On veut proposer un spectacle de divertissement, pas une énième émission de pêche.
Avec vous, Gwendal Jaffry, nous allons revenir sur le salon nautique de Paris qui a fermé ses portes le week-end dernier. Un salon en demi-teinte qui va devoir réfléchir à son avenir.
Son avenir et puis peut-être également réfléchir à une réinvention de la plaisance.
Et avec vous, Jean-Michel Guénier, des stages météo que l'on peut trouver. Ils sont nombreux, variés et plus ou moins approfondis.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a des stages météo organisés par Météo France, notamment à Cherbourg, mais ces temps-ci, plusieurs prestataires privés, dont certains de renom, proposent aussi des stages météo, que ce soit à Paris, à La Rochelle, et naturellement aussi en Bretagne, à l'École nationale de voile.
À tout à l'heure, messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Anne Kéméré a effectué plusieurs tentatives du mythique passage du Nord-Ouest en kayak ou encore avec un bateau propulsé par l'énergie solaire. C'est devenu une habituée du Grand Nord canadien. Depuis quelques années, elle retourne régulièrement dans les territoires du Nord-Ouest, près de la frontière de l'Alaska, où elle a tissé des liens avec une communauté inuite.
Alors j'avais envie de me mesurer au passage du Nord-Ouest, qui est un passage entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, donc entre le détroit de Bering et le Groenland en gros. Ça fait à peu près 5000 kilomètres, donc c'est vaste. Et pour commencer quelque part le chemin, il fallait que je me trouve un espèce de port d'attache. Mmh. Et ce port d'attache m'a été offert... Tout à fait. Alors, par hasard, je crois plus aujourd'hui que ce soit vraiment un hasard, mais des conditions météo m'ont entraîné dans un petit village qui s'appelle Tuktuyaktuk. Et je suis restée là pendant un long moment. Si longtemps d'ailleurs que j'ai donné un coup de main pour repeindre l'église. Donc, ce qui m'a permis de rencontrer énormément de monde. Et ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes, en tout cas, de cette communauté de Tuktuyaktuk, qui sont des Inuvialuits.
Est-ce que tu peux définir cette fascination? Parce que c'est vraiment de l'amour pour cette région. Tu y es retourné à plusieurs reprises, tu y retourneras sûrement encore. Qu'est-ce qui te fascine dans Tuktuyaktuk?
C'est très difficile à comprendre, parce que je pense que j'ai discuté avec quelques autres personnes qui ont pu aller à Tuk ou en Arctique. Soit on déteste, et vraiment c'est quelque chose de presque viscéral, soit on tombe en amour. Mais vraiment, c'est un espèce de coup de foudre. Je pense que ça fait appel à beaucoup d'émotions. On se retrouve, on a l'impression d'être aussi un peu peut-être à la naissance du monde, là où tout est possible encore. Alors que on pense à peut-être à un endroit qui est difficile, et ça l'est, mais on se rend compte aussi qu'avec du bon sens, on réussit petit à petit à franchir des obstacles qu'on s'était mis. Quand on vit dans notre vie de tous les jours ici, on se pose pas la question de l'eau courante, de l'électricité, de comment on va manger. Et lorsqu'on arrive là-bas, on se rend compte que tout ce qui fait notre humanité, l'essentiel, la base, c'est primordial. Donc tout est question de bon sens, de solidarité, de connaissance aussi de la nature. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. C'est même pas quelque chose qu'ils apprennent, c'est en eux. Et je crois que les Inuits ont ce sens-là inné, puisque de toute façon, depuis des milliers d'années, ils survivent dans cet environnement qui est quand même extrêmement exigeant.
Il y a aussi, au niveau technologique, un truc qui a beaucoup changé de choses. On pense aux traîneaux avec les jolis chiens tout plucheux, etc. Et maintenant, il y a de plus en plus de motoneige, ça change tout aussi.
Alors oui, et d'autant que dans la région de Tuktuyaktuk, le terrain est compliqué. On est dans la toundra, donc il y a énormément d'eau au printemps, énormément de lacs. Donc très vite, les chiens devenaient compliqués à utiliser. On utilisait plus le kayak dans ces cas-là. Et c'est vrai que dès que les motoneiges sont arrivées, très vite, les chiens ont disparu. Alors, de tradition, ils gardent toujours un ou deux chiens dans les familles, mais il n'y a plus d'attelage.
Oui, il n'y a plus les attelages comme on a tendance à les imaginer. C'était vrai il y a quelques dizaines d'années.
Il y en a encore au Groenland.
Ouais.
On en voit au Groenland. C'est pour ça qu'il y a vraiment... quand on commence à s'intéresser à l'Arctique, on voit bien qu'il y a de grandes différences quand même entre entre, par exemple, le Groenland, entre la région donc de ces territoires du Nord-Ouest canadien, l'Alaska, et puis on a en plus toute la région de Sibérie. Donc quand on fait vraiment le tour de l'Arctique, on peut pas généraliser et dire voilà comment vivent les gens du Grand Nord aujourd'hui.
Parce que c'est immense, quoi.
Parce que c'est immense et que chacun a gardé, ça dépend. Dans certaines situations, et c'est pour ça qu'au Groenland, je sais qu'ils ont encore des chiens, dans certaines situations, c'est pratique encore d'avoir des... Moi, j'en ai vu lorsque j'avais été au Groenland en 2010, j'avais été surprise de voir encore énormément d'attelages de chiens. Et là, dans le Grand Nord canadien, j'en ai pas vu un seul, il n'y en a plus.
La fille de l'iceberg. La fille de l'iceberg. La fille de l'iceberg. La fille de l'iceberg. Je suis la fille de l'iceberg qui descend doucement entre les soupirs du vent vers ton feu qui m'atteint. Je coule des heures sublimes sur mon glaçon géant. Je suis un conte pour enfants. Un conte pour enfants, l'épaule m'attire, magnétisme en sextant, le soleil me tire, le soleil me prend, la fille de l'iceberg, la fille de l'iceberg, je suis la fille de l'iceberg. Petite perle de tourment, je les offre au printemps. Je suis la fille de l'iceberg qui dérive lentement vers le rebord du monde, le creux de tes flancs. Ton épaule m'attire, ton épaule n'attend que ma tête chavire, qu'il s'y pose doucement. Tu es mon.
Ariane Moffat, la fille de l'iceberg, le choix musical de notre invité que l'on va retrouver dans un instant, ça sera juste après Gwendal Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, avec qui nous allons revenir sur le Salon Nautique de Paris qui a fermé ses portes le week-end dernier.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Un salon en demi-teinte qui appelle à une réflexion plus large.
Alors effectivement, un salon en demi-teinte, d'une part, les grèves, les fameuses grèves, qui ont quand même empêché beaucoup d'amateurs, beaucoup de plaisanciers, beaucoup de professionnels également de venir à Paris au Salon Nautique. Ça, c'est une chose. La réalité, ce sont aussi moins d'exposants. Ça, on peut pas le nier, puisque d'année en année, tout de même, tout le monde est bien obligé de reconnaître que les allées s'élargissent petit à petit, que la moquette prend de plus en plus de place. Et puis, on sait aussi qu'il y a de grands chantiers, notamment, qui ne sont pas venus. On entend aussi des professionnels dire que bah, finalement, le nautique, ils y viennent plus trop. Ils vont plutôt à Amsterdam, au Metz, un grand salon, à Düsseldorf également, un autre grand salon. Et puis, tout ça fait boule de neige. Et puis, au bout d'un moment, on va commencer à se poser la question de vraiment quel est l'intérêt de venir à ce salon. En même temps, s'il n'y a pas de salon en France, alors que la plaisance est si importante, c'est qu'il y a quand même un tout petit problème. Ça, c'est une chose. Dans ce contexte, néanmoins, tout ça nous amène à nous poser tout de même une question de, justement, on en est où de la plaisance aujourd'hui? C'est quoi ce salon qui régresse quelque part? Et puis, on en est où de la plaisance? C'est aussi un autre problème peut-être qui apparaît, c'est la réinvention de la plaisance. Et là, on a une autre histoire en parallèle à celle du nautique, à ce qui s'est passé cette année, c'est celle du port de Bretignolles. Bretignolles, on est en Vendée, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-d'Olonne, avec un projet de port de plaisance qui dure depuis très très longtemps désormais, et qui a connu une grosse manifestation cet automne, grosse manifestation d'opposants au projet. Pourquoi le port de Brétignolles? Parce que tous ceux qui souhaitent un port à Brétignolles, déjà, il y a une bonne raison, c'est que les contraintes de la navigation font que s'il y avait un port à cet endroit-là, on ne serait pas lié aux 6000 nautiques qui empêchent de naviguer entre Saint-Gilles et les Sables-d'Olonne. Ça, c'est une vraie raison. D'autres raisons, l'économie, parce que la plaisance génère des emplois, ça fait venir du monde, etc. Pour les opposants, eux, ils voient plutôt le fait qu'il faut casser une dune, parce qu'il va falloir creuser une dune, il va falloir creuser dans les terres, en une zone humide qui aujourd'hui est préservée. Et puis les opposants, ils y voient aussi de très bonnes raisons contre un tel projet. C'est est-ce que créer un port de plaisance aujourd'hui ex nihilo, c'est pas tout simplement le passé, c'est pas tout simplement la vieille vie du nautisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas inventer autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore obligé de détruire la nature quelque part? Parce qu'un port de plaisance, c'est rarement très joli, surtout quand on l'a créé à partir de rien. Est-ce qu'on est encore obligé de détruire la nature pour installer des bateaux qui naviguent en moyenne 4 jours par an, il faut s'en souvenir tout de même. Est-ce qu'on est obligé de créer un port de plaisance pour abriter les bateaux ventouses? On voit tous dans les ports des bateaux qui ne bougent jamais ou au bout d'un certain temps, ce sont quelque part des jardins flottants avec toute la mousse qui s'y est installée. Voilà, ce sont toutes ces questions qu'on a en droit de se poser aujourd'hui entre la désaffection d'un salon du nautisme, entre un port de plaisance avec beaucoup d'opposants. 2000 opposants étaient présents lors de cette manifestation. Jimmy Pain, député du Morbihan, qui a également manifesté son opposition à un tel projet. Jimmy Pain, skipper très connu. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps de réinventer sérieusement le nautisme?
Merci, Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Suite de notre entretien avec la navigatrice Anne Kéméré, avec qui nous évoquons ses passages dans le Grand Nord canadien, les liens tissés avec la communauté inuite de Tuktoyaktuk et le mode de vie dans cette région du monde, Anne Kéméré qui commence par évoquer les différences culturelles.
On a en tant qu'humain des connaissances et on est dans le jugement assez facilement, mais on juge par rapport à ce que nous, on connaît de notre culture, de notre expérience et de la vie qui nous entoure. À l'époque où Brigitte Bardot a commencé à défendre donc les bébés phoques, il y a eu une interdiction de la chasse aux phoques, mais une interdiction qui a été générale en Arctique. Ce qui a été dramatique pour les Inuits parce que c'est leur nourriture essentielle avec le caribou. Et donc, on a tout mélangé. On parlait de phoques qui étaient en fait d'abord tués par des chasseurs commerciaux, c'est-à-dire des Canadiens, pas du tout des Inuits, et dans des conditions qui étaient
oui,
sauvages.
Parce que ça, ils les tuaient de manière sauvage et voilà. Ils laissaient la viande, ils prenaient que, la peau. Alors que les Inuits, eux, ils les mangent, donc
oui,
c'est,
et en plus,
c'est vital.
Ça se passait dans un endroit très particulier du Groenland, donc ça veut dire que la punition, elle a été pour tous les gens qui vivaient en Arctique, alors que ça se cantonnait à une certaine forme de chasse qui était cette chasse commerciale qu'il fallait interdire, évidemment, mais juste cette chasse commerciale. Donc, on a d'un côté des gens qui survivent grâce à la nourriture qu'ils vont trouver sur place. C'est un peu comme pour nous. Si subitement on a un banc de bar qui débarque, de thon qui débarque dans la baie, imaginons que des gens viennent subitement nous dire « Ah non, attention, on n'a pas le droit de les pêcher parce que nous, on a décidé que dans le monde entier... »
Et donc,
on se permet, c'est ça, de juger sans connaître.
Ça a beaucoup changé.
Ça a énormément changé. Eux, ils ont vécu ce que nous, on a vécu en 2 ou 3 siècles. Eux, ils l'ont vécu en une cinquantaine d'années. Donc, c'est vrai qu'il faut suivre ce rythme-là et il faut leur laisser la chance de montrer qui ils sont aujourd'hui. Montrer un Arctique qu'on n'imagine pas, parce qu'on l'imagine toujours comme un grand désert blanc. Il l'est, une certaine partie de l'année, mais finalement, il ne l'est pas si longtemps que ça dans l'année. Et c'est bien autre chose que ça.
Entretien réalisé par Michel Pagès. Attraper les nuages, c'est le titre du dernier livre d'Anne Kéméré, qui vient de sortir, dont elle a signé les textes et les photos. Un livre aux éditions Locus Solus. Je vous invite également à aller faire un tour sur son site internet annekemere.com.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Un plan de protection des dauphins et autres cétacés a été adopté il y a quelques jours par le gouvernement. L'hiver dernier, ce sont près de 800 dauphins qui ont été retrouvés échoués sur la côte atlantique selon l'observatoire Pélagis. Les animaux se retrouvent en fait coincés dans les filets de pêche, ce qui les affaiblit ou les tue lorsqu'ils sont relâchés. Alors dès l'année prochaine, Raphaël Aubry, les bateaux devraient être munis de pingers, des répulsifs acoustiques pour les éloigner des bateaux.
Entre 70 et 80% des dauphins échoués sont blessés par des filets de pêche. Obliger les pêcheurs à utiliser des répulsifs pourrait donc être une solution pour Olivier Van Canet de l'Observatoire Pélagiste de La Rochelle.
Donc en fait, l'idée, c'est de les empêcher de rentrer dans le chalut, les dauphins. Donc c'est une balise qui est positionnée à l'entrée du chalut et qui émet des sons qui sont relativement désagréables pour les dauphins, qui sont censés les éloigner.
Un système testé depuis l'hiver dernier en Bretagne Sud, seulement sur les chaluts pélagiques. D'immenses filets remorqués entre la surface et le fond, mais utilisé seulement par une quinzaine de bateaux sur la côte atlantique, ce qui reste anecdotique pour le chercheur.
Ça ne va pas résoudre complètement le problème des captures accidentelles, parce que le problème des captures accidentelles est aussi en grande partie dû à d'autres techniques de pêche, pour lesquelles on n'a toujours pas de mesures techniques de proposer, de trouver en tout cas, tout simplement.
Des techniques comme celle des filailleurs, qui concernent plus de 500 bateaux sur la même zone. D'autres mesures plus drastiques auraient aussi pu être imposées aux pêcheurs, selon Olivier Van Canet.
Beaucoup plus contraignantes, diminuer l'effort de pêche, des fermetures, des choses comme ça. Là, c'est une mesure technique. On demande d'installer un appareil sur un engin de pêche.
On estime la mort de 5000 dauphins chaque année dans le golfe de Gascogne à cause de la pêche, sachant que tous ne s'échouent pas forcément sur les côtes.
Jean-Michel Guénier va nous parler maintenant de stage météo.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Des stages variés et plus ou moins approfondis.
C'est vrai, alors la météo marine est à la fois une discipline importante à connaître et à maîtriser quand on est navigateur, qu'il s'agisse de simples sorties à la journée ou de traversées plus ambitieuses. Et de temps à autre, Météo France propose des stages destinés aux plaisanciers, notamment à Cherbourg, qu'il s'agisse d'ailleurs de météo côtière ou hauturière. Et j'ai déjà eu l'occasion de relater dans cette chronique ces stages, mais divers autres prestataires de renom proposent aussi des stages encadrés par des spécialistes. Alors certains stages se passent à Paris, c'est le cas de ceux offerts par l'École de Navigation Française qui propose notamment un stage d'initiation le lundi 22 janvier prochain en soirée dans ses locaux du 7 avenue Lodru Rollin dans le 12e arrondissement. Renseignez-vous au 01 53 17 07 92 si vous êtes à la capitale durant la semaine. Si vous préférez programmer un week-end complet à Paris, pourquoi pas, et vous plonger dans la discipline de manière plus approfondie, c'est au centre des Glénans qu'il faut alors s'adresser. À bord de la péniche du centre, sur la Seine, le centre nautique des Glénans propose des stages offrant une formation complète en météo marine. Ils ont lieu le samedi et le dimanche de 10h à 18h et coûtent 165 euros pour le week-end. L'École de Navigation Française, dont je viens d'évoquer l'offre parisienne, propose aussi des cours de météo à La Rochelle. Là encore, il s'agit de stages courts de vulgarisation d'une durée de 3 heures qui se déroulent dans les locaux de l'école à La Rochelle. Appelez le 05 46 43 18 24 si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, pour ceux qui préfèrent la Bretagne et souhaitent faire confiance à une valeur sûre de l'enseignement du nautisme, c'est à l'École Nationale de Voile et des Sports Nautiques, plus connue comme l'ENV, qu'il faut s'adresser. On y propose des stages de météo marine côtière ou hauturière, ainsi que des stages d'initiation qui ont lieu les week-ends sur 2 jours et coûtent entre 210 et 270 euros. Allez voir sur le site www.envsn.sport.gouv.fr. Il y a un certain nombre de dates programmées sur 2020 et vous devriez trouver votre bonheur. Sachez aussi d'ailleurs qu'à l'École nationale de voile, on peut y trouver un hébergement pour le week-end. Donc si vous voulez faire un stage, vous pouvez bénéficier des infrastructures de l'ENV. Alors je ne vous garantis pas que vous ferez ensuite la pluie et le beau temps, mais au moins vous saurez analyser un bulletin météo, lire les tendances dans le ciel et les nuages et préparer vos navigations avec un œil avisé.
Dans un instant, Jean-Michel, vous allez nous présenter un navigateur.
France Bleu, bienvenue à bord.
Une télé-réalité consacrée à la pêche, ça s'appelle Fish or Quit, pêche ou part, un pilote, un épisode pour convaincre les chaînes d'acheter le programme, a été tourné dans le Finistère la semaine dernière. Roméo Van Maastricht était sur place pour en savoir plus.
Ils sont 10 candidats, 10 pêcheurs, amateurs ou confirmés, à s'affronter dans des batailles de pêche sur les côtes bretonnes. Un épisode pilote est en cours de tournage pour présenter le projet. Philippe Frugier, le co-créateur de Fish or Quit, veut proposer un programme innovant.
Alors un téléspectateur, il pourra avoir à la fois des épreuves de pêche et beaucoup d'informations sur le poisson et son écosystème. On veut proposer un spectacle de divertissement, pas une énième émission de pêche.
De l'action, des poissons, des candidats emblématiques, c'est un peu un Koh-Lanta de la pêche.
Une journée où on a des coefficients de 90 et des vents à 130 km/h, oui, ça ressemble à des épreuves de Koh-Lanta que d'aller pêcher, donc ça oui. On veut donner de l'information, on veut de l'aventure et de l'aventure humaine parce que c'est ça la pêche, mais on est au croisement de plein de formats.
Benjamin est l'un des candidats, il a 38 ans, il vit en région parisienne et croit dur comme fer au projet.
Je trouve que c'est un moyen de montrer au grand public ce que c'est que la pêche aujourd'hui. Il y a une bonne partie qui reste bloquée sur des images qu'on a en tête du pêcheur assis à attendre son petit bouchon qui va aller au fond de l'eau, quoi.
L'épisode pilote doit être présenté au MIP TV de Cannes début 2020, le plus grand salon des programmes télé. L'équipe compte bien vendre son émission pour une diffusion le plus tôt possible sur vos télévisions.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Pour terminer ce magazine, on vous retrouve Jean-Michel Guigné pour nous présenter le navigateur Robert Surcouf.
Robert Surcouf, alors célèbre corsaire et armateur malouin d'origine irlandaise, né en 1773 et mort en 1827, Robert Surcouf s'engage comme mousse à 13 ans. Détestant les Anglais par atavisme, sa légende va naître lors des guerres que la France livre à l'Angleterre sous la Première République et l'Empire. Il gagne ses galons sur la route des Indes et dans la traite des Noirs. Son combat contre le vaisseau britannique le Kent en 1800 lui rapporte une fortune et lui vaut tous les honneurs. À son retour, il épouse la fille d'un riche armateur malouin, puis cesse la course et se révèle aussi bon négociant que corsaire. Jamais blessé ni capturé au combat, adoré par son équipage, Robert Surcouf s'est emparé en tout et pour tout de 47 navires ennemis, ce qui lui vaut sa grande renommée.
Merci Jean-Michel Guigné. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt. Au revoir.